Chers frères et sœurs, vous qui êtes rassemblés nombreux dans cette cathédrale, comme vous qui nous rejoignez par les ondes de Radio Lapourdi, soyez les bienvenus en cette solennité des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Nous entourons évidemment de toute notre affection et de notre foi nos trois diacres, Vianney Arnaud, Paul de la Passe et Dominique Guyenne, qui vont entrer dans quelques instants dans l'ordre des prêtres par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit. Et je veux saluer tout d'abord avec affection et une vive gratitude leurs parents et leurs familles, et très particulièrement la maman de Dominique, venu du Vietnam pour donner son fils à l'Église et à la France. Cher fils, vous ne découvrirez sans doute qu'au ciel tout ce que vous devez à vos parents pour votre donation d'aujourd'hui. C'est la Providence qui guide nos pas, et c'est elle qui vous a conduit jusque dans cette terre basco-béarnaise où vous avez finalement choisi de servir l'Église dans la voie du sacerdoce. Humainement, peu de choses semblaient en effet pouvoir vous y conduire, sauf peut-être Paul, qui a une histoire familiale à Bayonne, et dont un grand-oncle capucin repose à l'ombre du séminaire des Cinq Cœurs de Jésus et de Marie, où il accomplit toute sa formation sacerdotale. Dominique avait déjà quitté son pays pour discerner une vocation missionnaire chez les travailleurs missionnaires, et c'est de Lisieux qu'il nous a rejoints. Quant à Vianney, originaire de la Saintonge, qui lui est si chère, il a retrouvé avec bonheur dans notre Béarn et notre Pays basque ce lien à la terre qui caractérise son ascendance paysanne. Comme quoi, se vérifie le dicton, tous les chemins mènent à Bayonne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est si difficile d'en repartir. Ce qui me frappe dans les lettres que vous m'avez adressées pour demander à être ordonné prêtre pour le diocèse de Bayonne, c'est à la fois une grande conscience de cette vocation à être un homme pour les hommes, appelé à partager leur joie et leur peine, ce que vous avez déjà pu expérimenter à travers vos premiers pas dans le ministère au gré de vos insertions paroissiales, et une haute idée de l'identité sacerdotale. Ces deux pôles qui font ce que Madeleine Delbrel, qui n'est pas pour autant un docteur de l'Église, appelait un vrai prêtre. Je cite, « L'absence d'un vrai prêtre est dans une vie une détresse sans nom. Le plus grand cadeau qu'on puisse faire, la plus grande charité qu'on puisse apporter, c'est un prêtre qui soit un vrai prêtre. C'est l'approximation la plus grande qu'on puisse réaliser ici-bas de la présence visible du Christ. Dans le Christ, il y a une vie humaine et une vie divine. » Aussi ajoutait-elle, on veut que le prêtre ait une vie humaine, à condition toutefois que s'il mêle sa vie à la nôtre, ce soit sans vivre tout à fait comme nous. En effet, concluait-elle, il doit avoir une vie divine. Le prêtre, tout en vivant parmi nous, doit rester ailleurs. Oh, que le prêtre est quelque chose de grand, s'exclamait le saint curé d'Ars. Confiant dans votre maturité humaine et spirituelle, qui vous situe spontanément dans la posture humble du service, avec une connaissance appuyée de vos faiblesses et de vos limites, je voudrais vous encourager dans ces vues profondes sur l'identité du prêtre. Je sais bien que ce n'est pas l'air que nous respirons habituellement, en ces temps où il est de bon ton de dénoncer en boucle le cléricalisme. Et c'est vrai que Jésus lui-même a mis en garde ses apôtres contre cette attitude morale qui consiste à faire sentir aux autres son pouvoir. Saint-Pierre n'exhortait-il pas les anciens en ces termes « Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu, non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. » Cette forme de cléricalisme peut faire des ravages et aller, hélas, jusqu'aux abus sexuels, mais elle est corrigible. Ni plus ni moins, elle exige une conversion morale, voire une guérison. Mais je veux parler de cette conception erronée du cléricalisme qui est distillée sournoisement au sein du peuple chrétien et qui consiste à faire croire que si le prêtre adopte une posture de consacré, de mis à part, de configuré au Christ pour tenir sa place au sein de l'Église, il commettrait un grave abus de pouvoir. Et à force de communiquer en ce sens, se répand dans le peuple chrétien un affaiblissement grave du sens de l'identité sacerdotale. Nul doute que la crise des vocations sacerdotales que nous connaissons aujourd'hui trouve en partie sa source dans cette crise de l'identité du prêtre qui secoue notre Église depuis des décennies. D'où ces questions qui se posent de manière récurrente et qui n'étonnent finalement plus personne. Pourquoi n'y a-t-il pas de femmes prêtres ? Pourquoi souligner la différence entre les prêtres et les fidèles laïcs ? Pourquoi insister sur le pouvoir sacré des prêtres ? Pourquoi le prêtre ne pourrait-il pas se marier comme tout le monde ? Autant de questions qui remettent en cause, souvent par ignorance et sans malice, l'identité du prêtre que le Christ a lui-même assumée et que l'Église n'a jamais cessé d'affirmer. Nos communautés chrétiennes ont en ce sens, chers frères et sœurs, un besoin urgent d'assainissement et de purification. Parmi les idéologies qui règnent aujourd'hui, on aurait tort de sous-estimer l'influence de la théorie dite du genre, qui impose à tous, de manière sournoise, une confusion grave sur l'identité de l'homme et de la femme, devenue interchangeable et soumise aux critères totalement subjectifs du libre choix de l'individu, au risque d'être simpliste. Avec cette idéologie, on affirmera même qu'il n'y a pas plus de différence entre les prêtres et les laïcs qu'il n'y a de différence entre l'homme et la femme. Au fondement de cette crise d'identité du prêtre, il y a l'effacement de la métaphysique de l'être. La théologie semble parfois avoir bradé la métaphysique pour se tourner vers l'histoire et finalement vers l'opérationnel. Sans doute, l'importance donnée à la métaphysique pour accueillir l'intemporel de l'éternelle révélation avait pu faire oublier que le Logos, le Verbe éternel de Dieu, s'est incarné dans une histoire et qu'il en est résulté une transformation de l'homme et du monde. Mais de là, à dénier à la métaphysique son rôle de fondement nécessaire et permanent, et à réduire la foi à une histoire ou un engagement pratique dans le monde, il n'y a qu'un pas. Il est très important de rappeler toutefois, avec le Concile Vatican II, qu'on ne peut pas comprendre l'identité du prêtre en dehors de cette ligne ontologique sacramentelle que l'Église reçoit de la révélation et transmet depuis 2000 ans de manière fidèle. C'est ainsi que le décret conciliaire sur la vie et le ministère des prêtres écrit « Le sacerdoce des prêtres est conféré au moyen du sacrement particulier qui, par l'onction du Saint-Esprit, les marque d'un caractère spécial » et les configure ainsi au Christ prêtre pour les rendre capables d'agir dans la personne même du Christ, tête, in persona Christi capitis. On ne peut pas mieux dire l'identité du prêtre, configuré au Christ prêtre. On comprend aussi pourquoi le prêtre est doté d'un pouvoir sacré, pouvoir ontologique qui fait de lui un consacré et l'habilite de l'intérieur à poser des actes qui excèdent sa propre nature et ses limites humaines, comme ceux inouïs de consacrer le pain et le vin pour qu'ils deviennent réellement, par l'efficacité même des paroles de Jésus, le corps et le sang du Seigneur. Comment pourrions-nous nous y habituer, nous prêtres, qui célébrons la messe quotidiennement, ou bien de pardonner les péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. D'où l'onction du Saint-Esprit qui vous sera abondamment communiquée par le sacrement de l'ordre et qui vous atteindra jusqu'à la racine même de votre être, l'élevant au-dessus de lui-même. C'est bien ce que vous entendrez dans la formule de la prière d'ordination qui constitue avec l'imposition des mains la forme même du sacrement. Répand une nouvelle foi au plus profond d'eux-mêmes l'esprit de sainteté. Quand vous assumerez votre responsabilité propre d'enseigner avec l'autorité même du Christ, de sanctifier le peuple chrétien par les sacrements, de gouverner la portion du peuple de Dieu qui vous sera confiée, vous serez dans votre rôle. Il n'y a aucun abus de pouvoir en cela, pourvu que vous viviez ce pouvoir sacré dans la communion hiérarchique et dans une posture de service. C'est ce à quoi vous serez ordonné de l'intérieur, du plus profond de vous-même, par l'onction du Saint-Esprit. Et si vous aurez appelé des fidèles laïcs à collaborer à votre charge, vous serez premièrement soucieux de les encourager à être avec vous co-responsable de la mission d'annoncer l'Évangile à travers le caractère spécifique de leur identité chrétienne, de baptiser, confirmer, insérer dans les réalités du siècle. On comprend encore pourquoi le prêtre ne peut être qu'un homme masculin. Configuré au Christ, il devient le signe sacramentel et efficace du Christ, époux de l'Église, qui donne sa vie, toute sa vie, pour son épouse. L'Église n'a pas le pouvoir de revenir là-dessus. Comme l'a rappelé solennellement en son temps le saint pape Jean-Paul II, au risque de renier le dessein créateur et rédempteur de Dieu lui-même, Dieu qui a créé l'homme à son image, c'est-à-dire homme et femme, s'est fait homme masculin pour le sauver. Ceci est fondé dans l'être et non dans une contingence purement historique et sujette à changement. On aurait tort en ce sens de considérer le célibat des prêtres comme un appendice facultatif du sacerdoce. C'est la forme de vie que le Christ, précisément sa qualité de prêtre, a assumée, se réservant tout entier dans la continence et la chasteté parfaite pour l'unique oblation de son corps sur la croix pour laquelle il a été consacré et envoyé dans le monde par le Père. Voilà pourquoi le célibat des prêtres est l'expression privilégiée, l'épiphanie par excellence de l'identité du prêtre à être le signe du Christ époux de l'Église. Et c'est dans la célébration de l'Eucharistie, l'offrande unique du corps du Christ, que se comprend le mieux cette exigence fondamentale qui remonte à l'âge apostolique et qui constitue le trésor de l'Église. Si l'on devait procéder, chers frères et sœurs, à l'ordination d'hommes mariés, ce qu'à Dieu ne plaise, alors il faudrait en toute logique qu'il s'engage dans la continence, comme l'atteste la tradition la plus antique de l'Église. On doit encore ajouter que l'identité du prêtre consiste dans son ordination intrinsèque au sacrifice du Christ. Quand la prière d'ordination évoque Jésus que le Père a envoyé dans le monde, elle l'appelle grand prêtre et le met d'emblée en relation étroite avec l'offrande du sacrifice, en disant « Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi, comme une victime sans tache. » l'essence du sacerdoce de la nouvelle alliance que vous allez recevoir, c'est de rendre présent, par l'annonce de l'Évangile et le ministère sacramentel, le sacrifice unique du Christ qui sauve le monde. Ce sera le cœur de votre ministère, l'expression la plus adéquate de votre identité de prêtre. Quand le décret conciliaire sur la vie, le mystère des prêtres, entreprend de définir la nature du presbytérat, il commence par affirmer « Le Seigneur a établi des ministres qui, dans la communauté des chrétiens, seraient investis par l'ordre du pouvoir sacré d'offrir le sacrifice et de remettre les péchés. » L'offrande du sacrifice, comme sommet et source de la vie et de la mission de l'Église, polarise le ministère du prêtre. C'est son identité de célébrer le saint sacrifice de la messe et de donner à l'Eucharistie, bien célébrée, selon les prescriptions de l'Église, la priorité dans son ministère. Tout votre ministère au service de vos frères en découlera et y conduira sans cesse. Ce n'est pas pour rien que l'auteur de l'Épître aux Hébreux mettait dans la bouche du Verbe, entrant dans le monde, ces paroles du psalmiste qui disent toute l'intention de l'incarnation-rédemption. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, je viens, mon Dieu, pour faire ta volonté. Et c'est grâce à cette volonté, conclut l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par l'offrande que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Vous serez encore appelés, et c'est une conséquence, à vous conformer au mystère de la croix du Seigneur. C'est que cette configuration au Christ qui touche votre être, avant de vous établir dans une fonction, exigera de vous une offrande quotidienne de tout vous-même avec le Christ. L'apôtre Paul l'exprime lui-même quand il affirme « Je suis déjà offert en sacrifice, je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de justice. » Et l'on voit bien combien il en a coûté à Pierre d'accueillir sa mission de pierre de fondation de l'Église du Christ. Vous ne serez pas indemne, vous non plus. En assumant pleinement votre mission d'annoncer et d'accomplir l'œuvre du salut, elle passera nécessairement par la croix. Aussi, demandez aux apôtres Pierre et Paul la même confiance inébranlable qu'ils ont mise dans le Seigneur. Vous la puiserez dans votre intimité avec lui et vous pourrez dire avec Pierre « Je me rends compte que le Seigneur m'a arraché aux mains d'Hérode », vérifiant ainsi la vérité de la promesse de Jésus, l'assurant que la puissance de la mort ne l'emporterait pas sur sa foi, qui est le fondement même de l'Église. Ou bien encore avec Paul, tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté et m'a rempli de force. Il m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. En vous prosternant à terre dans quelques instants, en état d'offrande, comme Jésus se couchant sur la croix, confiez-vous à la prière de l'Église du ciel et de la terre, qui va maintenant résonner dans les voûtes de cette cathédrale, cette prière à laquelle vous aurez toujours recours et qui ne vous fera jamais défaut. Abandonnez-vous entre les mains de la Vierge Marie. C'est à la croix que Jésus nous l'a donnée pour mère, et elle vous sera chaque jour redonné, quand vous célébrerez le saint sacrifice de la messe, voici ta mère, voici ton fils. Femme eucharistique par excellence, elle vous enseignera à offrir la victime pure et sans tache, la victime parfaite, et à vous offrir avec elle. Avec le bienheureux Louis-Édouard Sestac, au moment de l'onction des mains de son ordination, redites intensément du plus profond de votre cœur. Très Sainte Vierge, je vous offre mes mains, mon cœur, toute ma personne, qu'elle vous aide à être les vrais prêtres dont le monde a besoin. Amen.